guess what? Dark and death, Baba. Africa.
Sur Radio G.
La quotidienne de Radio G et de Radio Campus Angers, ensemble sur le 101.5 et le 103 pour une émission spéciale Premier Plan.
Et ben voilà, tout est dans le titre, j'ai envie de dire l'émission spéciale deuxième partie pour Premier Plan en partenariat avec Radio Campus Angers. Normalement, nous sommes sur les deux antennes en même temps, le 101.5 FM et le 103 FM. Il y a pas mal de monde en studio, ça s'entend pas, alors on compte sur vous pour montrer aux auditeurs auditrices que nous sommes là. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe.
Bonsoir. Salut.
Alors, vous avez reconnu les voix, bien évidemment, pêle-mêle, on a pas mal de monde, on a surtout une voix que vous reconnaissez si vous connaissez le 101.5 FM. Bonsoir Julien.
Bonsoir Pierre-Benoît.
Julien Noodles, toi tu as été toute la semaine aussi au Premier Plan.
Ouais, toute la semaine, j'étais bénévole, j'ai fait plein de trucs au taquet sur le festival.
T'as passé un bon moment, j'espère?
Ah, j'ai passé plus que des bons moments, ouais, de très belles rencontres, de très bons moments, donc hâte d'en parler.
Et ben on espère retrouver deux minutes au cours de cette émission pour parler de ton expérience, ton retour d'expérience sur Premier Plan, 38e édition, qui a accueilli à peu près 83 000 spectateurs. On va le découvrir tout à l'heure avec Loris dans quelques instants. On aura aussi, puisqu'on parle des publics, Chloé. Bonsoir Chloé, si tu veux bien t'emparer du micro. Toi, tu as fait un reportage justement sur les publics.
Oui, sur le public qui allait voir les courts-métrages, puisque c'est des séances qui sont quand même assez particulières. Donc moi, ça m'interrogeait de savoir qui c'était ces gens-là qui venaient un vendredi à 14h voir des courts-métrages.
Et les courts-métrages, il en sera question avec Mathéo, il me semble, et Johan. Ah non, ils ont fait tellement de contenu que je suis un peu perdu entre les propositions qu'ils font. En tout cas, on parlera de courts-métrages d'animation avec toi, Elliot. Bonsoir, Elliot.
Bonsoir.
Alors, c'est quoi ces courts-métrages d'animation pour nous donner envie de rester au moins jusqu'à ton papier?
C'est oui, dans le festival Premier Plan, les premiers courts-métrages d'animation, donc par plein de réalisateurs du monde entier. C'était très intéressant. Je suis allé voir une de ces diffusions. Il y en a eu plusieurs. Et donc, je vous en sors quelques recommandations.
Alors, les courts-métrages, mais les films aussi plus longs, il me semble. Simon, notamment. Bonsoir, Simon, de Radio Campus Angers.
Salut.
Toi, t'as été voir un film et justement, t'as interviewé le réalisateur.
C'est ça, je suis allé voir Avant Après, qui est un film assez original dans sa démarche parce qu'il traite de la question des implants capillaires en Turquie. Mais vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça finalement comme histoire.
Bon bah hâte d'entendre le réalisateur nous en parler de vive voix. Le premier plan, il y a les projections bien évidemment, il y a les à côté aussi. Bonsoir Manon.
Bonsoir.
Tu vas nous parler de la soirée What the Fuck.
Exactement, et j'adore ton visage quand tu le dis, je regrette que les gens ne le voient pas.
Oui, moi aussi, mais du coup qu'est-ce que c'est What the Fuck?
Bah c'est des films qui font l'étrangeté, des films qui ne sont pas en compétition mais qui sont très intéressants à voir et j'ai hâte de vous en parler.
Alors What the Fuck, ce sera aussi un petit peu la réaction qu'on aura avec la dernière chronique, dernier plan tout à l'heure avec Cassandra et Sidonie. Elles sont trop loin des micros malheureusement pour nous donner envie de rester jusqu'au bout. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? On aura aussi l'attractivité, Sidonie, on l'entendra avec Paolo par rapport à l'attractivité du festival puisque Premier Plan, bah voilà, 83 000 spectateurs, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de retombées économiques. Bonsoir Paolo.
Salut, salut Pierre-Benoît.
Alors vous avez été faire quoi avec Sidonie? Vous avez été voir les commerçants et commerçantes du coin, c'est ça?
Oui, l'objectif c'était de montrer que le festival c'est pas seulement un événement culturel, mais que ça a aussi un impact sur les petits commerçants du centre-ville angevin. Et on a été voir notamment deux vendeurs qui ont leur stand à l'intérieur même du centre des congrès, donc on les écoutera.
Voilà, de quoi on les écoutera tout à l'heure. Je pensais à la clôture aussi, parce que du coup, Chloé, t'as été à la soirée de clôture avec Johan et Mathéo. Donc, ce sera l'occasion d'échanger ensemble par rapport à vos sensations. C'était la première fois que vous allez voir la clôture de Premier Plan. Vous pourrez aussi nous dévoiler qui a remporté, qui ont été primés dans les films qui étaient en compétition. Mais ça, on va le garder secret, puisque on commence cette émission avec justement quelques chiffres.
Émission spéciale Premier Plan. Radio G et Radio Campus.
Et pour parler de ces chiffres, justement, Loris qui va nous dire tout de cette 38e édition de Premier Plan.
Oui, du coup, cette année, le festival, comme tu l'as dit, il a rassemblé près de 83 000 spectateurs, dont 30 000 de moins de 25 ans, un chiffre qui a impressionné tous les invités et tous les jurys, tant la présence du jeune public est forte ici à Angers. À noter aussi que côté programmation, l'offre avait été légèrement réduite pour des raisons économiques et suite à des décisions régionales assez contestées. Malgré ça, le public a répondu présent et les films en compétition, par exemple, ont attiré un peu plus de 23 000 angevins dans toutes les différentes salles de la ville. Autre beau succès à noter, la rétrospective des juges et témoins, qui a séduit plus de 16 000 personnes. Et aussi, à ne pas oublier, les 99 places qui étaient réservées aux anglophones dans la salle. Voilà.
Voilà pour les chiffres à,
voilà les chiffres à retenir.
À retenir, et tu t'es bien abstenu de dévoiler hein, les lauréats du coup qui étaient en compétition, ça sera tout à l'heure. On va rester un petit peu sur les publics, hein, les visiteurs et visiteuses qui sont venus voir au premier plan, puisque justement Chloé qui s'est rendue à la projection du, elle s'est rendue à la projection du deuxième programme de court-métrage européen en compétition au festival Premier Plan d'Angers. Elle est donc allée à la rencontre du public.
À l'auditorium du Centre des Congrès, la salle est pleine pour une projection un peu particulière. Au programme, 5 courts-métrages d'une durée comprise entre 10 et 32 minutes. Et étonnamment, pour un vendredi après-midi, on retrouve un public multigénérationnel. Yves et Eliane sont des habitués de ce type de séance. Ils m'ont raconté pourquoi ils ont choisi d'aller voir cette projection.
On vient systématiquement à tous les films en compétition.
Voilà, c'est ça. Est-ce que vous faites partie du jury ou c'est pour votre propre plaisir ?
Non, je ne fais pas partie du jury. Par contre, je suis en plus bénévole dans le festival.
Catherine et Francis, de leur côté, sont venus pour la découverte.
Bah, je trouve ça intéressant justement de voir pas mal de films en peu de temps, de petits films comme ça. Moi, j'aime beaucoup cette formule en fait.
Bah, ça a été un peu aussi le hasard aussi parce que on n'a rien réservé. Il y a beaucoup de films qui sont déjà pris. Bon, c'est peut-être un second choix, mais très intéressant quand même.
Et c'est la première fois que vous veniez voir des courts-métrages ?
Oh, moi, je suis venue il y a très longtemps au festival Premier Plan, mais là, ça faisait très très longtemps. Ouais.
Non, moi, je suis jamais venue. C'est une découverte.
On peut dire qu'ils ont plutôt aimé cette expérience.
Ah oui, c'est intéressant parce que c'est le travail de quand même de beaucoup d'années et tout ça. C'est un travail important. On aime bien.
Oui, bah, je trouve ça intéressant de voir les films de débutants. Et puis, il y a l'ambiance du festival qui est vraiment sympa. Les gens n'applaudissent plus au cinéma aujourd'hui. Et là, d'être dans cette ambiance-là, moi, je trouve ça vraiment très, très sympa.
Un enthousiasme moins partagé par Yves et Eliane.
Un peu déçu. Globalement, on a vu mieux.
Il n'y avait pas de film qui ressortait. C'était assez... on a trouvé ça pas top, en fait.
C'est pourtant l'un des courts-métrages diffusés durant la séance, Eraserhead dans un filet à provision de Lilikos, qui a remporté le grand prix du jury.
Et merci beaucoup, Chloé, pour ce reportage auprès des publics, une partie des 83 000 spectateurs qui a été voir des séances à Premier Plan. Alors, parmi ces 83 000 spectateurs, on a une personne qui est là, au moins avec nous ce soir, Simon, car tu as été voir le film Avant-Après de Manoël Dupont. Et avant d'entendre l'interview que tu as réalisée, tu voulais nous parler justement, nous faire un peu le synopsis de ce film.
C'est ça, parce que, alors, dans l'interview, j'ai beaucoup vu avec le réalisateur la manière dont il a conçu ce film, parce que c'est une manière un peu étonnante. J'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. Mais Avant-Après, c'était un film, moi, qui m'avait attiré par son synopsis, qui était assez étrange, puisque, en fait, il aborde la question donc des gens qui partent faire des implants capillaires en Turquie. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler quand on voit des vannes, notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, mais sous un angle artistique, je l'avais jamais vu. Et donc, ça raconte l'histoire donc de deux personnes qui, à la base, ne se connaissent pas, deviennent un peu amies par un concours de circonstances parce que l'un fait de l'autostop et l'autre le prend. Ils discutent et ils ont le même problème tous les deux, c'est qu'ils ont un début de calvitie, dans la trentaine à peu près, et ils se lancent dans cette aventure d'aller en Turquie faire des implants. Et donc, ça c'est le point de départ. Mais après, tout au long du film, il y a une amitié qui naît, voire un peu plus. J'en dis pas plus. Mais voilà, il se passe plein de choses et en fait c'est les implants qui servent de décor à une histoire un peu plus complexe.
Bon, et qui de mieux placé que son réalisateur pour parler aussi de son œuvre. Donc voilà pourquoi tu lui as posé quelques questions qu'on écoute maintenant.
Bonjour Manoël.
Salut.
Donc on est avec toi là pour parler de ton film qui a été diffusé une première fois ce matin à l'heure où on enregistre et qui sera à nouveau diffusé. Donc ça s'appelle Avant-Après. C'est l'histoire donc de deux amis, en tout cas deux personnes qui se rencontrent et qui ensuite deviennent amis et qui partent ensemble en Turquie pour faire une greffe de cheveux. Point de départ un peu original, mais qui part pas de rien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu as eu l'idée de ce film ?
Ouais, alors en fait, je bossais sur un film sur une relation entre deux personnages où j'avais un peu une idée de distance entre eux, de la manière dont ils se cherchaient, voilà, deux personnages un peu de solitude comme ça. Et puis en fait j'ai deux amis qui ont au détour d'une conversation un jour, qui m'ont dit qu'ils envisageaient d'aller se faire une greffe. Et puis il y a tout qui s'est un peu vraiment cristallisé là, où je me suis dit mais en fait je crois que c'est ça qu'il faudrait. Je crois que c'est ça qu'ils font les personnages dans le film. Et ça rendait tout limpide d'un coup. Enfin, tout limpide. C'est, au contraire, peut-être ça ouvrait plein d'autres questions, en fait. Et du coup, j'ai demandé à ces deux amis, qui sont aussi des comédiens proches de moi et que, voilà, que je connais très bien, si je pouvais construire une fiction autour de cette opération qu'ils allaient faire. Et ça a donné, du coup, ce film avant-après.
Alors la greffe, elle est un peu centrale dans l'histoire, mais en même temps pas tant, ça va au-delà. C'est-à-dire, on voit des plans dans la clinique, mais en fait l'idée c'est aussi beaucoup de montrer une relation amicale, voire plus même. En fait, ce film il raconte autre chose que juste une simple histoire de greffe de cheveux.
Ouais, c'est complètement. En fait, c'est un alibi assumé. Je dirais que déjà la greffe en elle-même. Ouvre à plein d'autres questions parce que, enfin voilà, c'est vraiment le projet. Dès qu'on avançait un peu, ça ouvrait à d'autres choses. Genre, parce que dès que je leur ai demandé où est-ce qu'ils voulaient faire la greffe, ils m'ont dit nous de base on serait allé à Istanbul. Donc déjà c'est tout un pan de le tourisme, un tourisme un peu particulier, voilà, où on va là-bas parce que c'est aussi moins cher, etc. Ça ouvre aussi à plein de questions sur la masculinité, comment elle est vue, enfin le désir de se changer, physiquement, mais aussi qu'est-ce qu'on attend d'un changement, voire d'un voyage, donc voilà, en fait ça ouvrait tout un tas de questions qui pour moi étaient beaucoup plus intéressantes et qu'on a beaucoup plus essayé de s'intéresser aux choses que ça ouvre que à la greffe elle-même, qui en fait est oui, et juste un alibi, voilà.
Aux choses que ça ouvre, et au-delà de ça, au sujet que ça traite d'un point de vue géographique, puisque, donc, comme tu l'as dit, ils vont en Turquie, et s'insère aussi dans l'histoire la question du contexte politique turc, au moment en tout cas où le film a été tourné.
Oui, quand on est parti, quand eux m'ont dit, de base, on serait allé la faire à Istanbul, je suis allé en repérage là-bas pour trouver la clinique où ils pourraient le faire, et qui voudrait bien qu'on filme. Et en fait, à ce moment-là, c'était quelques mois avant les élections de 2023. Et la population là, n'avait un peu que ça à la bouche. Enfin voilà, tout le monde parlait vraiment de ça tout le temps, partout. Et du coup, on a décidé un peu organiquement. En fait, soit on tournait juste avant et juste après, on s'est dit en fait tournons à ce moment-là, et en fait ça renforçait, en fait je pense, le côté peut-être déjà assez étrange, en fait, d'aller dans un autre pays pour des raisons financières, se faire opérer un peu caché dans son coin de mec, et là de le faire dans ce contexte-là, je dirais rajouter de l'incongruité à leur quête. Voilà, ça nous intéressait déjà pour ça. Et puis ensuite, je crois que j'aime aussi beaucoup l'idée de même si c'est de la fiction, d'essayer de l'ancrer dans notre monde à nous, quoi, qui me paraît déjà très complexe et très fascinant, dans le bon et le mauvais sens du terme. Et puis j'aime bien aussi le fait de l'ancrer. Enfin, il se passe tellement de trucs tout le temps que je trouve ça. J'aime bien, voilà, assumer qu'un film il a été tourné à une période précise, à une année précise, durant des événements réels aussi. Voilà, ça me tenait à cœur aussi parce que justement je suis pas istanbouliote du tout. Le but c'était aussi de documenter que nous on était passés à ce moment-là.
Parce que ce qui est important de dire aussi dans le, le procédé du film, c'est que il y a cette histoire qui est vraie du point de départ de tes amis qui font leur greffe. Dedans il y a un peu de fiction, mais en même temps ça a été tourné avec ce qui s'est vraiment passé quand vous êtes allé à Istanbul. Donc comment on gère ce côté un peu hybride à la fois d'un scénario écrit, changé au fur et à mesure, et du fait de filmer presque la réalité de ce qui se passe.
Ouais, en fait, c'est vraiment... moi, je décrirais ça dans... En fait, c'est de la fiction, parce que déjà, c'est... Il y a trop de choix. Et dans ce qui est montré pour... mais voilà, en gros, c'est de la fiction, je dirais, mais qui va puiser des choses dans le réel, en fait. C'est ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire que même les comédiens, donc en effet, ils font beaucoup d'impro. Il y a des moments où on est plus en maîtrise, donc on va pouvoir plus refaire une prise parce qu'on va dire c'est une scène à deux dans une chambre ou quoi. Oui, après il y a d'autres scènes, d'un coup on va être dans un bar, on rencontre quelqu'un, on lui dit ah, est-ce que t'as envie de faire une scène avec nous, et là ça va être plus de l'impro et on va peut-être pouvoir moins refaire quoi. Et en fait c'est aussi, ça me plaisait aussi que toute l'équipe ensemble se responsabilise, les comédiens aussi, dans à quel point on va dessiner des pans, voilà, les comédiens peuvent aussi décider à chaque moment des fois d'improviser quelque chose, d'aller... Enfin, il y a une expression que j'aimais bien, que je leur disais souvent, qui était qu'en fait leur rôle c'est un peu d'aller éclairer la réalité. Mais ils sont conscients, par exemple les comédiens, qu'on a eu des discussions avant de choses qui nous intéressent, etc. Et ils sont très conscients qu'il y a certains pans de la réalité qui nous intéressent plus à être éclairés, ou qui font plus écho à des choses qu'on a dit pour leur personnage, etc. Donc en fait c'est un mélange des deux, et c'est aussi un genre d'écriture qui en fait voilà, enfin existe.
Et d'ailleurs dans les personnages de ce film, il y en a un qu'on peut citer qui est assez intéressant, parce qu'en fait il n'était pas du tout prévu, c'est celui de Wassim, c'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce qu'il est arrivé là?
Oui, alors il y a un moment du film où du coup les deux personnages sont à Istanbul et rencontrent quelqu'un dans la rue, et voilà, c'est toujours intéressant ces moments en voyage où pour toi un peu tout paraît exceptionnel, et puis tu vis une petite bulle avec quelqu'un et d'un coup tu rencontres quelqu'un d'autre qui appartient plus à l'univers présent d'ici. Et donc là en fait c'est quelqu'un qu'on a rencontré dans la rue qui nous a demandé ce qu'on faisait. Par exemple, on a vraiment dit est-ce que tu veux, enfin il était partant pour tourner dans le film, du coup on a dit ok, imaginons une scène, imaginons que vous vous rencontrez là. Et c'est vrai que c'est assez touchant parce que du coup la rencontre entre les personnages du film et lui, et aussi la rencontre entre nous, notre équipe, et lui, et finalement bah après on est resté amis déjà pendant le tournage, et en fait on a réécrit des scènes finalement pour qu'il revienne dans le film plus tard, et finalement en fait il a un rôle assez important dans le film maintenant, et il nous a suivis en festival, et c'est un très bon ami. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu des fois j'oublie que foncièrement, c'est vraiment croisé dans la rue au sens propre là-bas. Mais on y est vraiment allé avec cet état d'esprit dans le sens où on se disait, on prend le strict minimum et on essaie de mettre en place un cadre qui nous permet en fait d'accueillir justement ce genre de choses. Genre autant au niveau de la technique que moi au niveau de la réal que des comédiens. En fait, c'était vraiment ça quoi, le but. C'était. Et c'est un travail en fait qui demande presque ou autrement, mais autant de préparation que de tout préparer. Tu peux aussi tout préparer pour accueillir ce qui va arriver, quoi, pour accueillir l'imprévu.
Et une dernière question, c'est donc ton premier film. Déjà, est-ce qu'il ressemble à ce que t'imaginais avant de le commencer? Et puis aujourd'hui, voilà, donc tu parlais déjà des premières projections qui ont eu lieu. Il y a eu celle donc de ce matin au moment où on enregistre. Comment tu appréhendes la chose? Est-ce que t'es content des retours? Est-ce que t'es content des réactions qu'il y a vis-à-vis du film?
Ouais, je suis super content. Je crois que c'est plus marrant que je le pensais en le faisant, mais je suis hyper content de ça. Et puis en fait j'ai passé 2 ans et demi à le faire finalement. On a tourné assez rapidement, mais après on a passé beaucoup de temps avec Romain Waterloo à le monter. Et du coup j'avoue que je sais pas trop. Enfin pareil, vu le processus, j'avais des images forcément, j'avais des envies et tout, mais j'avais pas un truc fixe. J'étais plus très curieux de traverser cette expérience.
Bonjour Manuel.
Salut.
Donc on est avec toi là pour parler de ton film qui a été diffusé une première fois ce matin à l'heure où on enregistre et qui sera à nouveau diffusé. Donc ça s'appelle Avant Après. C'est l'histoire donc de deux amis, en tout cas deux personnes qui se rencontrent et qui ensuite deviennent amis et qui partent ensemble en Turquie pour faire une greffe de cheveux. Point de départ un peu original, mais qui part pas de rien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu as eu l'idée de ce film?
Ouais, alors en fait, je bossais sur un film sur une relation entre deux personnages où j'avais un peu une idée de distance entre eux, de la manière dont ils se cherchaient, deux personnages un peu de solitude comme ça. Et puis en fait, j'ai deux amis qui ont au détour d'une conversation un jour qui m'ont dit qu'ils envisageaient d'aller se faire une greffe. Et puis il y a tout qui s'est un peu vraiment cristallisé là où je me suis dit mais en fait je crois que c'est ça qu'il faudrait.
Une interview de Simon que malheureusement j'ai coupé, il restait 130 secondes, une minute, mais rassurez-vous, on la remettra en intégralité dans les différents podcasts de nos deux émissions. Une interview qui t'a marqué, on sentait que t'étais à la fois interloqué par le sujet, Simon, et en même temps par le regard artistique que voulait proposer alors j'ai peur d'écorcher
Manuel
son nom,
Dupont.
Mais voilà, tu le prononces mieux que moi.
Non, parce que ce qui est bien, c'est que bon, grâce à des événements comme Premier Plan, ça permet aussi d'avoir le réalisateur directement, et après il y a eu la session de questions-réponses, et en fait elle a permis d'apporter ce côté profondeur qu'on n'avait pas juste en ayant vu le film, où il a pu vraiment dérouler sa manière de faire, et en fait c'est ce dont on parle dans l'interview, c'est-à-dire que d'expliquer qu'il y a des persos, le perso de Wassim, c'est juste un gars, donc un Syrien qui avait immigré en Turquie, qu'ils ont croisé dans la rue parce que donc il partait en mode fiction documentaire, donc avec une histoire inventée mais en même temps en filmant des trucs qui étaient réels à Istanbul. Et ce gars-là qu'ils ont croisé, en fait, ils le mettent dans leur histoire en lui disant « Ah, reviens demain, on tourne une scène et en fait, tu deviens un personnage ». Bah, c'était une approche, enfin, on n'aurait pas eu cette anecdote-là sans la partie questions-réponses avec. Et donc avec le réalisateur, et donc ça a permis d'apporter, je trouve, de la profondeur au film, parce que c'est un film quand même que j'ai trouvé assez incomplet, notamment dans la fin, parce que la démarche artistique était un peu complexe, donc forcément on peut pas avoir un truc hyper abouti, mais d'avoir en plus une espèce de making of en live a permis, je trouve, d'avoir une œuvre plus complète, et là ça devenait vraiment intéressant.
Vous partagez le regard de Simon, pas en studio, Julien, Manon par exemple, ou Chloé, Paolo, enfin toutes les personnes qui sont autour de la table, sur le fait que d'avoir le contexte dans lequel l'œuvre a été créée, pensée, réalisée, voulue, le message aussi qu'a voulu être porté, au-delà du fait de simplement voir, entre guillemets, hein, consommer l'œuvre, ça apporte justement une lecture différente, Chloé?
Bah moi totalement, j'ai eu l'occasion de rencontrer une réalisatrice, donc on entendra l'interview tout à l'heure, et justement en ayant cette interview et juste avant la séance même, elle avait un peu expliqué sa démarche, c'est là que j'ai appris qu'en fait le film était inspiré d'une histoire vraie, de son histoire à elle, et donc ça prend un tout autre sens. On se rend compte qu'en fait quand on parle de thèmes hyper forts comme la dépression, on en parlera du coup après.
Tu spoil un peu là, hein.
Ouais, je spoil un peu. En fait ça prend une autre mesure quand on se rend compte que c'est ce qu'a vécu le personnage principal, que les personnages ils sont vraiment inspirés de gens qui ont existé, et que tout le film est construit, là dans l'occurrence, par une famille. C'est, ça a une autre saveur, je trouve.
Est-ce qu'avoir des a priori, finalement, dans ce cadre-là, ce serait pas une bonne chose, Julien?
Ah, c'est une bonne question. Je voulais réagir aussi à ce que disait Chloé, mais on a forcément des a priori quand on voit un film. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, du prix du public River Boom, qui est un documentaire où c'était pas forcément la séance à laquelle je pensais aller, tu vois, des bons retours, et la chance après de discuter avec Claude Bechtold, le réalisateur, et c'était un moment ultra précieux, tu vois, on avait pu discuter 20-30 minutes ensemble, et ça apporte vachement des éclairages sur ce qu'il a fait, encore plus quand c'est un documentaire. Donc là, on est dans la réalité, quoi.
Bon, et ben merci pour vos regards, vos échanges aussi. On continue dans cette émission spéciale Premier Plan sur Radio Campus Angers et Radio G. On fait une petite pause musicale et on revient ensemble juste après ça.
Got some questions, the answers I need to know. Baby, keep on sipping, one more shot and then we'll go. It might be superficial, but it's better than being alone, wondering what went wrong. So when the lights start flashing, blinding out your eyes, and there ain't no other place to hide, when the waves start
see. Fool me once, it's okay, as long as you're next to me. In a perfect harmony. So when the lights start flashing, blinding out your eyes, and there ain't no other place to hide, when the waves start dragging you along the tide, and you feel things coming to an end, oh, I'll be there.
Vous êtes à l'écoute du 101.5 FM et du 103 FM pour cette émission spéciale Premier Plan.
Topette et le sous-marin, spécial Premier Plan, 101.5 FM et 103 FM.
Dans quelques instants, Matteo et Johan nous partagent leur interview de Francesco Sosai. Mais avant tout ça, nous avons Manon qui voulait nous parler des à côté du festival, ces soirées, cette soirée What the Fuck, qu'on est bien curieux et curieuse de découvrir, Manon.
Bah oui, tout à fait. Pour cette première année de festival, pour moi, j'ai choisi de me tourner vers des films qui n'étaient pas en compétition. Et parmi eux, il y en a plein. J'ai choisi la sélection Vertige. Ça m'a très intriguée. Alors Vertige, c'est quoi? C'est une sélection de films avec un fil conducteur qui est l'étrange. Cette année, Premier Plan offrait 4 soirées Vertige avec une soirée double film nommée, comme tu l'as dit, la soirée What the Fuck. Avec un titre comme ça, vous vous doutez bien que je ne pouvais pas passer à côté. Me voilà donc mardi soir au cinéma pour cette soirée qui promet d'être surprenante, au programme 2 films français en avant-première. La soirée a commencé avec Plus fort que le diable. Ce thriller comique nous plonge dans un vrai univers étonnant, rempli de second degré, de surprises et encore la découverte de ce qu'il y a de pire dans l'espèce humaine. À la fin, nous avons eu le plaisir de pouvoir échanger avec le réalisateur Graham Guy, j'espère que je le prononce bien, qui était d'ailleurs accompagné d'une partie du casting et notamment Melville Poupeau qui incarne Valentin, le personnage principal. Un échange qui était très intéressant et qui me permet de revenir sur quelque chose qui a dit Melvin Poupeau et qui m'a très interpellée. Il nous a rappelé qu'il venait au festival tous les ans et ça m'a fait me rendre compte de l'adhésion des gens au festival. Les Angevins, on le sait, on l'a vu à plusieurs reprises lors de cette semaine sur place mais aussi dans nos émissions spéciales. Mais là, je voulais soulever l'adhésion des professionnels du cinéma. On a eu le cas là avec Melvin Poupeau qui nous dit venir tous les ans. Mais lors d'une lecture de scénario cette semaine, j'ai également pu voir Clémence Poésie qui était à Premier Plan pour la troisième fois. Deux exemples que l'adhésion de ce festival est totale, et pour moi, ça, c'est gage de qualité. Mais revenons à notre soirée What the Fuck. Après ce premier film Plus fort que le diable, qui d'ailleurs sortira en mars cette année, nous sommes montés d'un cran dans l'étrange avec une nouvelle avant-première, celle du film Flush. Le film signé Grégory Morin nous offre une expérience étrange, comique et cinglante. Ça nous plonge dans un huis clos particulier car le personnage principal excellemment joué par le superbe Jonathan Lambert va se retrouver la tête coincée dans des toilettes turques d'un bar. Pas besoin de vous dire que le second degré est aussi nécessaire que d'avoir le cœur bien accroché pour voir ce film. Flush d'ailleurs qui n'a pas encore de date de sortie ni de distributeur, donc là Premier Plan nous a vraiment offert une exclusivité. Personnellement je suis très contente d'avoir pu assister à cette soirée qui porte très bien son nom, What the Fuck, je le rappelle. Ces deux films montrent deux choses. Premièrement, la diversité du festival Premier Plan, qui aurait pu croire que ces deux films, si étranges soient-ils, soient en sélection. Et deuxièmement, ces films sont la preuve, s'il en fallait une, que le cinéma français est d'une richesse folle et qu'il a encore de belles surprises à nous offrir.
Merci beaucoup Manon pour cette découverte de cette soirée What the Fuck, j'essaie de bien le prononcer, je sais pas pourquoi ça me fait penser aussi aux afters qui a pu voir lieu au Palace Comédie. Julien, on aime bien les soirées à côté de Premier Plan.
Oui, et puis on en a eu une, vu que tu me tends la perche, on en a eu une très belle mercredi soir notamment, il y a eu une soirée karaoké avec toutes les équipes, bénévoles, équipes invitées, jury, et j'ai eu la chance de présenter ce karaoké avec notamment un moment d'anthologie avec Samuel Kircher et Thomas Caillet qui ont chanté ensemble sur Je te promets de Johnny. Et d'ailleurs Antoine Reinhardt l'a évoqué lors de la cérémonie de clôture, un moment assez what the fuck, voilà, qu'Antoine Reinhardt s'en parle pendant la reprise du, enfin la cérémonie de clôture.
Voilà, donc le festival Premier Plan, hein, il faut en profiter à fond, faut bien égrener toutes les petits recoins de la programmation aussi. Et surtout, donc, nous on a eu la chance d'avoir des interviews. Bonsoir Matteo et Johan, peut-être que vous voulez parler avant d'entendre votre interview de Monsieur Sosai, le film, cet échange que vous avez pu avoir aussi avec lui, Johan.
Salut Pierre-Benoît, bah du coup, ouais, effectivement, on a eu l'occasion de pouvoir interviewer Francesco Sosai.
À l'occasion Premier Plan, il a sorti du coup le film Le Dernier pour la route. Pour raconter un peu le synopsis, c'est un film assez léger. On va suivre deux personnes qui viennent de 40 ans et qui vont faire la tournée des bars finalement, et puis ils vont toujours avoir l'envie de prendre un dernier verre, c'est pour ça d'où vient le nom du film, et ils vont faire la rencontre d'un jeune qui a la vingtaine, qui est né dans les années 2000, et puis c'est un peu le point central du film, c'est cette rencontre entre deux générations. T'as quelque chose à ajouter, Mathéo?
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça parle d'un sujet qu'on connaît aussi tous en France par rapport à l'Italie, mais qui est malheureusement pas très développé dans le cinéma italien. C'est le sujet de la diagonale du vide italienne. On sait que les campagnes italiennes se vident. C'est pas la même culture des villes qu'en France. Donc c'est vrai que ça aborde ce sujet-là, et du coup c'est abordé effectivement assez légèrement, ce qui rend le film d'autant plus intéressant et d'autant plus dense.
Eh ben, on écoute les réponses de Francesco Sossai à vos questions.
Bonjour Francesco Sossai, vous êtes un réalisateur italien. En 2021, vous sortez votre premier film, Altri Cannibali, qui remporte le prix du meilleur film au POF. Et puis en 2024, vous venez pour la première fois à Premier Plan pour y présenter votre court-métrage, L'anniversaire d'Enrico, qui remporte le Grand Prix du jury. Cette année, vous revenez avec un long-métrage, Le Dernier pour la route, qui a été sélectionné en compétition à Premier Plan. Un film qui a aussi été sélectionné dans la catégorie Un certain regard au dernier Festival de Cannes. Alors avant de nous plonger dans l'œuvre, de rentrer plus en profondeur dans le propos du film, est-ce que vous pouvez nous dire que raconte-t-il ?
Alors le point de départ, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux générations, comme la génération des années 70 et la jeune génération du début des années 2000. Cette histoire est une histoire qui parle des changements majeurs dans la société italienne de ces 20 dernières années. J'ai fait ce film parce que je sentais qu'il manquait au cinéma italien ce regard sur le paysage, donc pour décrire les gens et le paysage d'une manière unificatrice. Comme je l'ai dit, j'aime vraiment la comédie italienne des années 60 et 70, donc Mario Monicelli et Dino Risi en font partie. Surtout pour ce film, le modèle était Il Sorpasso de Dino Risi. En français, ça s'appelle Le Fanfaron. Et je l'aime beaucoup. Et ça a été une énorme forme d'inspiration pour le film. Mais aussi, j'ai été beaucoup inspiré par des films français, comme Trafic de Jacques Tati ou L'Argent de Bresson.
Quel message vous vouliez transmettre lorsque vous avez fait le film ?
I don't like messages. Je n'aime pas les messages dans les films. J'envoie plus des messages avec mon téléphone et c'est la seule façon dont j'envoie des messages. Non, je ne veux pas transmettre un message à travers le film, mais je veux créer une narration avec le plus de couches possible pour que tout le monde puisse voir quelque chose dans le film. Et j'aime quand les films ont beaucoup de niveaux pour qu'on puisse les regarder, les re-regarder, et à chaque fois on comprend quelque chose de plus, on voit quelque chose de plus. Mais surtout pour moi, c'est important que le film permette au public de ressentir quelque chose. Et ça peut être ce qu'ils veulent, d'une certaine façon. Donc je ne veux pas que le film soit paternaliste, en quelque sorte. Je veux que le film regarde le public droit dans les yeux. Dans le film, quand quelqu'un essaie de dire quelque chose de paternaliste à quelqu'un d'autre, le film coupe. Où il y a un gros son qui ne le permet pas. Par exemple, comme le patron de l'usine au début, ou Carlo Bianchi à la fin avec Giulio, quand ils essaient d'enseigner quelque chose, il y a un son énorme qui remporte la voix.
Alors, on a trois personnages principaux dans l'œuvre. Parmi eux, lequel vous correspond le plus ?
C'est un peu étrange parce que quand on écrit, on va dans une sorte de transe et on devient quelqu'un d'autre quand on écrit. Donc c'est difficile de dire si je vois quelque chose de moi en eux, parce que quand je les ai écrits, je suis quelqu'un d'autre en quelque sorte en écrivant.
La fête est un élément assez central dans votre film. Est-ce que vous faites souvent la fête, et surtout est-ce que vous trouvez ça aussi important de faire la fête, tout simplement?
J'avais l'habitude, plus maintenant, mais j'aime les fêtes, et ce genre de rassemblement de gens, j'en ai fait beaucoup.
I did a lot of them. Yeah, yeah. So yeah, I mean everything that is has
to do with a trait à l'expérience commune avec d'autres personnes et se sentir libre et se libérer soi-même. Je pense que c'est important.
I mean also my short film.
Je veux dire, mon court métrage parle aussi d'une fête d'anniversaire.
Alors il y a aussi une bande son très marquée. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette dernière?
Il y a beaucoup de musique live dans le film et j'ai choisi tous les groupes de ma région que je connais parce que j'aime donner cette sorte d'authenticité au film.
Donc c'est un vrai groupe. Et puis enfin, avant de se quitter, est-ce que vous pouvez aussi nous parler forcément de cette venue à premier plan? Alors la première fois, j'imagine que ça avait été spécial. Aujourd'hui, ça allait peut-être encore plus vu que c'est votre premier long métrage. C'était comment hier soir?
Ce que j'aime beaucoup, c'est que le théâtre hier était plein. Et c'était genre 1200 personnes, quelque chose comme ça. C'est un immense théâtre. Et j'aime le fait que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'âges différents qui visitent le festival. Donc c'est très ressenti dans la population d'Angers et j'aime beaucoup ça, oui. Il y avait... beaucoup de jeunes gens dans le théâtre, beaucoup de vieilles personnes et des gens d'âge moyen. Donc j'aime ça.
Merci beaucoup Francesco Sosai. On rappelle donc réalisateur italien du film Le Dernier pour la route en compétition dans la catégorie long métrage à premier plan. Merci beaucoup pour cette petite interview. On va vous souhaiter tout le meilleur à vous ainsi qu'à votre film. Merci encore.
Merci beaucoup Johan et Matteo. Interview, je crois qu'on peut retrouver en version plus longue hein, sur vos réseaux sociaux de votre chronique d'émission hein.
C'est la même durée, mais par contre on en profite du coup pour parler de nos réseaux effectivement. Donc c'est 2,5 comme le nom de notre chronique sur Radio G. Donc voilà, comme ça s'écrit comme ça s'entend finalement.
Ouais, oui. Vous pouvez venir check sur Instagram et puis...
Ouais, merci Johan. pas, c'est pour ça.
Pas dans le micro,
il a deux micros du coup. Non, on en reparlera tout à l'heure en fin d'émission. Rassurez-vous, on fera la promo de toutes les émissions dans lesquelles les personnes ici peuvent être impliquées. Les émissions cinéma, bien évidemment. On continue du coup à parler de premier plan. Premier plan, long métrage, moyen métrage et court métrage d'animation même avec toi, Elliot.
Et oui, mardi dernier, en effet, avec Jules, que certains d'entre vous connaissent, on est allé voir une projection de 6 courts métrages d'animation, tous très différents les uns des autres. Et j'ai décidé de vous présenter 3 d'entre eux pour, j'espère, vous donner envie d'aller les voir. Donc le premier dont j'aimerais parler, c'est Amarelo Banana. C'est un court-métrage luso-hongrois, donc qui vient d'Hongrie et du Portugal, réalisé par Alexandre Souza et animé par les studios Club Animation et Aim Creative Studio. On y suit un jeune homme dans son appartement triste, dans un monde qui a l'air au bord du craquage. Et il va se rendre compte que dans son immeuble vit un genre de communauté sectaire composée de personnes se prenant pour des singes. Donc avec un style de comique qui rappelle des séries comme Scavenger Reign ou Invincible, l'ambiance est toujours à mi-chemin entre l'humour et le malaise, avec des gros moments de silence, tantôt drôles et tantôt à la limite de l'horreur. Je sais que j'avais trouvé le film vraiment drôle et une personne qui m'avait accompagné avait trouvé le film pour le coup très badant. Donc vraiment sujet à interprétation. Et le film suivant, donc qui était As the Wolf, un court-métrage produit par Salt for Sugar Film, donc c'est un studio français, et un réalisateur égyptien, Sameh Allah, pardon, qui avait déjà réalisé le film I'm Afraid to Forget Your Face. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose, c'est lui qui avait remporté la Palme d'Or du meilleur court-métrage d'animation à Cannes en 2020. Meilleur court-métrage tout court, pardon, pas d'animation. Il s'attaque maintenant à l'animation justement avec As the Wolf, où il nous raconte une petite partie de sa vie, sa relation avec ses cheveux et sa calvitie. Et donc c'est très drôle, touchant, et le style d'animation simpliste en noir et blanc et la narration à la première personne rappelle un peu la série Samuel sur Arte pour ceux qui l'ont vu parmi vous. Et vraiment le film est assez intéressant, il parle aussi justement, tu en parlais tout à l'heure Simon, de fait d'aller se faire implanter des cheveux en Turquie notamment et tout ce que ça implique du point de vue du regard social, etc. Et la soirée s'est enfin conclue avec Cosmogonia, premier court-métrage de Carolina Chabier et produit par une flopée de studios, Novanima, Local, Osu Production et Cola Animation. Alors celui-là est un peu compliqué à résumer, ça raconte l'histoire de deux déesses sur les prémices de la Terre. Elles vont, avec leurs pouvoirs respectifs, insuffler la vie et créer des îles et des créatures différentes. Et des créatures qui évoluent de plus en plus et les déesses vont se retrouver dépassées par leurs propres pouvoirs. Ce film est vraiment beau visuellement, on sent qu'il y a eu un travail sur les végétaux, les jungles qui sortent du sol de manière organique. Ça rappelle un peu le film Princesse Mononoké avec le cerf à tête d'homme qui était un peu avec ce type d'animation là d'organique et de plantes. J'ai particulièrement apprécié dans le film le fait que on peut vraiment lui prêter un nombre de sens assez énorme et ça c'est vraiment génial. Le film vraiment onirique, très poétique, très intéressant. Donc je viens de vous parler de trois films marquants que j'ai vraiment appréciés. Mais les autres diffusés ce soir-là, donc Scroll, Murmuration et Avant de rentrer, ce dernier était vraiment hyper gore, méritent tout autant d'attention. Et c'est aussi une invitation de manière générale à s'intéresser aux courts-métrages d'animation. C'est une forme de cinéma trop souvent discrète, donc d'animation et pas d'animation aussi d'ailleurs. Pourtant, il y a des séries d'anthologie, donc les séries d'anthologie, c'est des séries avec des épisodes non liés les uns aux autres, qui sont très intéressantes, donc des suites de courts-métrages d'animation. Je propose Love, Death and Robots, qui est disponible sur Netflix par exemple, qui est une série de David Fincher, où plusieurs studios d'animation proposent leurs métrages, et certains studios dont je vous ai parlé plus tôt y ont participé d'ailleurs. Et récemment, j'ai vu très récemment sur Prime Fujimoto 1726, qui est une suite de nouvelles écrites par donc le mangaka Tatsuki Fujimoto, avant qu'il perce pour d'autres œuvres connues comme Chainsaw Man. Et c'est assez intéressant de voir comment il a démarré à donc des âges beaucoup moins matures et comment il écrivait. C'est une série qui est vraiment incomplète, mais qui est intéressante pour ça aussi. Voilà, c'était ma première chronique, mais
bravo.
Je tiens à dire, si j'avais dû moi-même donner une palme, je vous conseille précisément Amarillo Banana, le premier dont j'ai parlé. Il est vraiment excellent et il est autant drôle que flippant, donc il est vraiment cool. Voilà.
Eh ben merci beaucoup en tout cas pour cette première chronique, Elliot, fort intéressante en plus, parce que c'est vrai que l'animation c'est un peu des fois le parent pauvre du cinéma. Je voyais Manon qui a acquiescé énormément. T'avais l'air d'être un peu raccord avec ce que disait Elliot. Hein.
Extrêmement fan d'animation. Et j'avoue que j'ai loupé les cours d'animation, mais je suis très très fan d'animation, que ce soit en série, en film, en long, en court, j'adore ça. Et pour compléter un peu ce que tu dis, on peut vous conseiller aussi la série qui est arrivée récemment sur Prime. Chaque épisode reprend un jeu vidéo, ça s'appelle Next Level, et c'est aussi une très bonne série, donc je rajoute cette recommandation.
Par les créateurs justement de Love, Death and Robots aussi, c'est
ouais,
la même
tout
équipe.
À fait, tout à fait, voilà. Et je rajoute ça en plus, c'est cadeau.
Et ben merci pour ce rajout de dernière minute, Manon. L'animation, il en sera question tout à l'heure dans les rues de la ville d'Angers à l'occasion de Festival Premier Plan. Forcément que l'attractivité s'en voit renforcée et les retombées à la fois économiques et en même temps l'afflux de public. Forcément 83 000 personnes, imaginez bien, dans les rues d'Angers, ça fait du monde. Mais avant tout ça, on retourne avec une réalisatrice cette fois-là que tu as interviewée, Chloé. Alors avant de l'entendre, tu voulais nous parler un petit peu juste de la thématique du film qu'elle a réalisé justement.
Ouais, parce que justement, le film, il parle de thèmes assez lourds. Il parle de comment on grandit quand on n'a pas eu de père, quand son papa est décédé, et quand on est un jeune garçon qui a besoin de repères. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça reprend l'histoire du demi-frère de la réalisatrice qui interprète le personnage principal. Et c'est de ça qu'on va parler, du lien entre l'histoire personnelle de la réalisatrice et ce film qui l'a aidé à avancer, elle, dans sa vie personnelle. Donc voilà, c'était une super interview. J'étais ravie de la rencontrer et c'était un super film.
Et le film s'appelle The Sun and the Sea et c'est Stroma Cairns, du coup, qu'on entend répondre à tes questions.
Hi, bonjour Stroma Cairns, tu es réalisatrice anglaise et tu es aujourd'hui au festival Premier Plan pour présenter ton tout premier film, The Sun and the Sea. Et hier, avant la projection du film, tu as expliqué que ce film, il est assez personnel pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Ce film est personnel parce que je l'ai fait avec ma mère et mon frère. Ma mère l'a produit et coécrit avec moi, et mon frère joue le personnage principal. C'est un film personnel car on l'a filmé en Écosse, dans une petite ville d'où vient ma famille écossaise. Mon grand-père et mon arrière-grand-mère sont nés là-bas et j'ai passé beaucoup d'été là-bas. Et la maison dans le film est vraiment la maison de ma grande tante. Elle y a vécu, donc ce n'est pas un décor. Et la tante dans le film est vraiment ma grande tante, qui n'est malheureusement plus parmi nous aujourd'hui. Mais Johan joue aussi une version de lui-même, vous savez. Dans la vraie vie, il a également perdu son père. Donc oui, il y a beaucoup de liens avec ma propre vie.
Et le fait de faire ce film, est-ce que ça t'a aidé dans ta propre vie ?
Oui, ça m'a énormément aidé, ça a changé ma vie. Lorsqu'on faisait le film, j'ai vécu beaucoup de changements et c'était un peu... Comment dire, c'était difficile de s'engager à faire ce film. Je dirais que j'ai eu beaucoup de honte autour de ma perte d'audition, donc je n'étais pas à 100% prête à vivre cette expérience. Mais maintenant, je réalise que j'en avais vraiment besoin.
Et donc, pourquoi avoir décidé de parler de ta surdité dans The Son and the Sea?
Je voulais en parler car j'ai une perte d'audition, je porte des appareils auditifs. Et quand j'étais à l'école, j'étais la seule élève dans cette situation, je me sentais très différente. Ça m'a fait ressentir beaucoup de honte quand j'étais enfant et j'ai souhaité voir d'autres personnes malentendantes, d'autres personnes portant des appareils auditifs à l'écran. Je ne voulais pas que ce soit le centre de l'histoire, vous savez, une histoire triste avec, sur la surdité. L'objectif était de présenter les gens comme des humains malgré leur handicap.
Et du coup, combien de temps ça a pris pour faire ce film?
Combien de temps ça a pris? Eh bien, on l'a écrit 2 ans avant de le filmer et on l'a filmé en 5 semaines.
And then the shoot was 5 weeks. So,
donc le passage de l'écrit à la réalisation a été assez rapide.
Et c'est facile de faire un film avec sa famille, surtout de tourner avec son frère.
C'était finalement un processus très agréable. Je pense que la partie difficile a été l'écriture, parce qu'on essaie de comprendre, mais une fois qu'on était sur le tournage, c'était un rêve, on a tous passé un super moment tous ensemble.
Et j'ai cru comprendre que la musique avait un rôle important dans ce film. Comment tu l'as choisi?
J'ai toujours su, même avant de faire le film, que je voulais mettre la musique de mon beau-père, le père de mon frère, car elle a eu un rôle important dans ma vie.
My stepfather's music in the film, because his music's been such a big part of my life, so that was always.
Donc elle devait forcément y être. Donc c'est la musique du début et de la fin et du milieu. Et la bande son a été faite avec un groupe que je connais depuis que je suis petite.
A duo called Toy Drum. And I've known them since I was a kid. So
donc c'était une super collaboration.
Et qu'est-ce que ça te fait ressentir d'être ici au festival Premier Plan? Est-ce que c'est important pour toi?
Oui, c'est fabuleux d'être ici. C'est la première française du film et c'est vraiment un festival fantastique. C'est super de voir autant de jeunes ici. C'est la première fois que j'en vois autant dans un festival. Et ce film est pour une jeune audience, c'est pourquoi c'est super de les voir ici.
Young audiences as well, so it's great to see them.
Thank you. Merci beaucoup, Stroma Kern. Je rappelle que tu es réalisatrice anglaise.
Merci à toi, Chloé, pour cette interview et merci à Manon pour le doublage de Stroma Kern. On continue avec Sidonie et Paolo qui sont allés à la rencontre des commerces, des échoppes angevines aux alentours du festival Premier Plan pour s'intéresser à leur attractivité, à l'attractivité du festival et les retombées que ça pouvait avoir sur leur commerce.
Tout au long du festival, certains commerces installent leur stand dans le hall du centre de congrès pour vendre leurs produits. C'est le cas du stand de Christine, salariée dans la librairie Contact au 3 rue Lenet. C'est la librairie historique du festival depuis 36 ans. Elle est ravie de pouvoir proposer ses livres à un public varié.
Le festival attire plein de personnes de France, étrangers aussi. Alors ce sont plus les gens qui sont en compétition et puis qui accompagnent les gens, les metteurs en scène en compétition. Et puis il y a un public très varié, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui font des écoles de cinéma à travers la France.
Chaque année, elle renouvelle ses propositions d'ouvrages en fonction de la programmation de Premier Plan.
Ça dépend des metteurs en scène qui sont en rétrospective, ça dépend des livres, de ce qu'il peut y avoir, ça dépend des DVD. Il y a des metteurs en scène, sauf qu'il y a très peu de choses. Bon, Herzog, cette année, il y en a un peu, il y a quand même quelques bouquins. Il y a par exemple il y a 6 ans, il y avait énormément de choses. Il y a tous ces livres, il y a ces coffrets qu'on a beaucoup, beaucoup vendus. Il était là, il était présent aussi. Ça compte beaucoup, la présence d'un metteur en scène. Alors là, c'est une année où on a beaucoup plus vendu. Voilà, ça dépend vraiment. Alors là, le summum, ça a été la rétrospective Pasolini.
Autre que pour une question de budget, Christine est présente pour l'ambiance et les rencontres.
Alors moi, ça me tient à cœur parce que d'abord, je pense que je suis cinéphile. J'aime beaucoup le cinéma, j'y vais beaucoup. Et puis, c'est une autre animation, c'est autre chose, c'est une autre dynamique. Ça change de l'ambiance de la librairie. Et là, on retrouve une dynamique, une animation. Et puis, je ne sais pas si vous pour fréquenter le festival, mais c'est une animation quand même qui est particulière, qui est bon enfant, qui est très sympathique. Voilà, on retrouve plein de gens, plein de nationalités, c'est agréable. Hein.
En face du stand de Christine, nous retrouvons Romain, qui représente pour la 7e année Home Wax, une boutique de vinyle située dans le centre-ville d'Angers, au 70 rue Baudrière.
Pour le festival, on ramène tout ce qui est musique de film. Alors, il y a aussi un peu de séries télé et de jeux vidéo, mais 90% de musique de film.
Son stand est aussi une occasion de faire connaître son magasin de vinyle, un objet qui revient au devant de la scène ces dernières années.
Ça nous permet d'être à deux endroits en même temps. Et puis, il y a tout le temps des gens curieux qui vont aller à la boutique ensuite. Voilà, il y a différents profils. Il y a beaucoup de lycéens, lycéennes, qui étonnamment aiment beaucoup les comédies musicales. Il y a des habitués que je revois depuis plusieurs années, qui ont leurs petites spécificités, le film de genre, les films d'horreur par exemple. Et puis il y a parfois quelques clients étrangers. L'an dernier j'ai eu des Libanais par exemple, qui cherchaient des trucs très particuliers.
Depuis des années, certains lieux deviennent de véritables repères pendant la durée du festival. Le Dublin's Irish du 18 rue Saint-Georges en fait partie, au plus grand bonheur de Yann, son gérant.
Moi, c'est vrai que c'est toujours, toujours un 10 jours très sympathique. Et puis bah, c'est vrai que ça fait tellement d'années qu'au bout d'un moment, bah, on connaît quand même pas mal de monde du niveau de l'organisation, tout ça. Donc c'est un peu chez eux, quoi, donc c'est vraiment sympa, quoi.
Le Dublin's Irish attire aussi bien les intervenants du festival que le public après une bonne séance.
Bah, je reçois beaucoup de personnes de l'organisation, et effectivement les personnes qui vont voir les séances diverses et variées au Grand Théâtre ou au 400 coups. C'est très mélangé, il y a beaucoup d'internationaux. Là c'est vraiment une clientèle spécifique parce que c'est des gens qui viennent un peu de partout, et puis effectivement avec les sélections qui sont européennes, c'est sympa parce que du coup il y en a vraiment un cadre international, donc c'est vraiment hyper sympa. Et puis c'est un monde quand même particulier, le cinéma, donc c'est vraiment très sympa.
Yann et les autres commerces du centre-ville d'Angers attendent désormais avec impatience la prochaine édition.
Oui, et en attendant, merci Sidonie et Paolo. Hein, les commerces en juin restent ouverts, bien évidemment, notamment le Dublin's. Hein, n'attendez pas forcément premier plan pour y aller. Cette émission n'est pas sponsorisée par le Dublin's, je précise. Il y a les premiers plans et les derniers plans, surtout que c'est la fin. Donc Sidonie et Cassandra se sont intéressés à ce qu'étaient les derniers plans.
Bon, bah, clap de fin pour le festival Premier Plan. Mais on s'est quand même posé une question existentielle. Pourquoi ça s'appelait Premier Plan? Mais dis-moi, Sidonie.
Eh bah, bonne question, Cassandra. Tout ce que je sais, c'est que le festival met en avant les premières œuvres de réalisateurs européens.
Ah, donc tu veux dire les mettre au premier plan?
Mais oui, mais ça devient logique. Mais par contre, les réalisateurs dans l'histoire, on en fait quoi?
Bah, sans eux, le film, il n'existerait pas. Donc c'est un peu comme le second plan, tu vois.
Ah ouais, pas la première chose à laquelle j'aurais pensé, mais ça reste visible. Par contre, tu sais ce qui reste invisible?
Dis-moi.
Le dernier plan. On ne fait pas toujours attention aux détails, ni à ceux qui les rendent possibles. Pourtant, sans toute l'équipe technique, ces métiers de l'ombre qu'on oublie trop souvent, il n'y aurait tout simplement pas de premier plan.
Comme quoi, chaque plan a son importance. Et toi, Sidonie, t'as un plan préféré?
Alors là, Cassandra. Ouais, c'était un beau brun au Midstar.
Sidonie, tu t'égares du sujet, là. Je parle de cinéma, moi.
Pardon. Alors, cinéma. Du coup, par contre, cinéma, j'ai bien aimé le plan de la fin dans Le règne animal, dans la voiture, entre le père et le fils, c'était hyper émouvant. Et toi, Cassandra?
J'avoue, moi aussi, je l'ai trouvé trop touchant.
Non, mais Cassandra, c'est quoi ton meilleur plan cul?
Ah.
Ok, doucement, on s'emballe Cassandra et Sidonie. Je vais reprendre la main sur cette émission avant que ça parte n'importe comment. On a compris le propos en tout cas, et puis on vous remercie bien évidemment pour ce papier, on va l'appeler comme ça. Bon, cette émission spéciale Premier Plan revient sur les premiers plans. Le festival Premier Plan 38e édition touche à sa fin, cette émission spéciale. Le festival est déjà fini depuis ce week-end. Il reviendra bien évidemment l'année prochaine, certainement une nouvelle émission entre Radio G et Radio Campus Angers. On rappelle qu'on est en direct, on était en direct en tout cas sur les deux antennes en même temps, 101.5 FM et 103 FM. Il nous reste encore quelques minutes pour clôturer, faire une vraie clôture, nous aussi entre nous en interne. Nous voulons parler justement de la soirée de clôture, car Matteo, Johan et Chloé y étaient. Décidément, Chloé était sur tous les fronts pendant premier plan. Alors si, voilà, on l'a annoncé, on a fait un petit peu de teasing. Si vous n'avez pas eu les résultats, si on doit annoncer les grands lauréats avant, et puis les endroits où retrouver la liste complète, ça se passe comment, Chloé?
Eh bien, moi, je vais vous dire le prix du grand, enfin le grand prix du public pour les courts-métrages européens. Et donc, le court-métrage européen qui a remporté ce grand prix, c'est Eraserhead dans un filet à provision. C'était mon court-métrage préféré, donc j'en étais ravie.
Eh bien, tant mieux, tu as misé sur le bon cheval d'une certaine façon. Et le reste des prix, on va peut-être pas tous les citer, Johan, Matteo.
L'un des plus importants tout de même, le grand prix du jury pour le long-métrage européen a été décerné à Los Domingos de Aloda Ruiz de Asua. J'espère que je ne défonce pas son prénom.
Mais en tout cas, on espère aussi. Matteo.
Oui, alors moi j'aurais aimé revenir quand même sur les courts-métrages français, c'est important de les citer, toujours en restant sur le grand prix du jury. Donc avec Ne réveillez pas l'enfant qui dort de Kevin Aubert, et puis tout à l'heure on a eu l'interview donc de Francesco Sosai pour le dernier pour la route, qui a eu du coup le c'était la mention honorable,
la mention spéciale.
Excuse-moi Julien, excuse-moi. du jury, donc ce qui est très sympa aussi et ce qui est bien mérité pour ce film.
Et cette ambiance de clôture vous a un peu surprise, puisque il y a beaucoup d'ambiance, justement des applaudissements notamment. Il y a une tradition que vous ne connaissez pas, je crois, Chloé, à l'occasion de Premier Plan.
Ouais, ils nous ont raconté l'anecdote de pourquoi à Premier Plan, à chaque fois, le public applaudit juste avant la diffusion, enfin pendant la diffusion de la bande-annonce, ouais. Et en fait, c'est que une année, il y a un acteur qui est venu sur scène et qui a décidé de danser pendant cette bande-annonce. Et du coup, c'est devenu une tradition d'applaudir pendant ce moment-là, même s'il n'y a pas d'acteur cette année qui est venu danser pendant cette bande-annonce.
Voilà, une anecdote, en tout cas, une tradition que connaissait bien évidemment Julien. Julien, tu es encore avec nous. Merci d'avoir
été
là ce soir. Tu voulais rajouter des choses par rapport à des résidents, tu m'as dit.
Je voulais faire un mini-focus sur les résidents des Ateliers d'Angers, parce que j'étais avec eux toute la semaine. Donc, ce sont de jeunes cinéastes qui s'apprêtent à réaliser leur premier long-métrage et ils sont sélectionnés sur dossier. Donc, c'est déjà des cinéastes aboutis qui ont déjà des courts-métrages produits. Et ils sont là pendant une semaine pour rencontrer plein de gens, pour en quelque sorte peaufiner, être aiguillés sur leur projet. Donc, je les salue, Ingrid, Zoé, Joséphine, Romuald et Romain, voilà, avec qui j'ai passé une super semaine.
En tout cas, toutes les personnes qui sont, merci Julien, toutes les personnes qui sont venues ce soir au micro sur le sous-marin et Topette, on rappelle qu'on est ensemble, semblaient avoir bien profité du festival. Vous avez déjà des souvenirs imprimés bien au fond de la rétine. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué plus que d'autres, Manon, toi qui es vraiment une cinéphile, hein, clairement, est-ce que cette édition, cette implication pour Premier Plan 38e édition t'aura laissé une impression particulière?
Moi, ce qui m'a interpellée et ce qui m'a, c'est la densité de ce festival. En fait, il y a tellement de choses et tellement de choses qui sont intéressantes. Je suis ébahie par cette proposition de programme, en fait.
Ouais, je sais pas si vous partagez ça aussi, Johan, Simon aussi. Hein, n'hésite pas à revenir près de la table si tu veux bien. La densité du programme. Est-ce que c'est quelque chose aussi que t'as, toi, qui découvrais, je crois, Premier Plan, qui t'a marqué aussi?
Oui, forcément. Maintenant, c'est vrai que. Je dirais quand même que ce qui m'avait le plus surpris, je reviens à ce qui a été dit avant, c'est l'ambiance avec cette histoire de d'applaudissements et cette musique, enfin voilà, cette bande-annonce, cette musique qui revenait, c'est un peu moi qui aime le foot, j'aime bien qu'à des grandes compètes, on a le jingle de la Coupe du Monde et on se le tape tout l'été, mais en même temps on l'aime bien. Mais il y avait un peu ça aussi avec Premier Plan, avant d'aller voir un film, c'est la musique de Premier Plan et l'ambiance, et ça c'était cool.
Oui, le foot et le cinéma sont pas incompatibles, Julien.
Pas du tout, on peut aimer les deux, le sport, le ciné.
Bon, et bah tant mieux.
Il y a un très bon film sur Maradona à Premier Plan aussi.
Ah oui, c'est important de le citer. Merci beaucoup en tout cas à toutes les équipes. Je pense qu'on peut s'applaudir si on est assez près, voilà. Par rapport à votre implication, vous avez fait un travail remarquable et incroyable. On est très content d'avoir pu partager ces contenus avec vous, auditeurs, auditrices du 103 FM et du 101.5 FM. Instant auto-promo pendant une toute petite minute pour les personnes qui sont impliquées respectivement sur les antennes, sur vos antennes, par rapport à des contenus cinématographiques. Manon, clap and chat sur Radio G, par exemple, pour le cinéma.
Tout à fait, oui, je m'attendais pas à prendre la parole. Oui, c'est le mercredi soir et on débriefe les dernières sorties cinéma et on vous parle des actus locales.
Et voilà. On a même le compte Instagram, je crois, le ciné de Ninon.
Exactement, tout à fait, c'est moi qui anime tout ça.
Voilà, et Chloé qui était impliquée sur tous les fronts, ce n'est pas anodin puisque tu es déjà impliquée au sein d'une émission cinématographique au sein de Radio Campus Angers.
Exactement, je co-anime l'émission Dézoom et Débat dans laquelle on parle d'un sujet d'actualité en partant d'un film, donc avec mes compagnons, je pense du coup à Anaël, Aubin et PJ, donc voilà, tous les premiers mardis du mois.
Et ben voilà, c'est cité. Et vraiment, 20 secondes, Mathéo, ça va être un exploit. 2,5.
Oui, on a lancé un média sur Instagram qui s'appelle 2,5. Et on a aussi une chronique tous les mercredis, une semaine sur deux, dans la quotidienne. Donc, Topette, à tes côtés, Pierre Bonin.
Et il a tenu le timing. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On se redit à demain, 18h10. 18h sur le 103 FM pour le sous-marin. Et sinon, bah, peut-être à l'année prochaine pour de nouvelles émissions spéciales. Topette.
Topette.
Les tasses qui m'invitaient à fumer un spliff. J'ai passé l'âge de sauver des bébés.